Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Chers amis voyageurs du vol Destination Afrique, nous allons faire un petit escale dans l'univers économique de l'Afrique. Aujourd'hui, le slogan « America First », qui a façonné la politique économique du président américain Donald Trump, risque de remettre en cause une certaine stabilité dans les relations économiques entre l'Afrique et le reste du monde. L'African Growth and Opportunity Act, dit AGOA, qui donne l'opportunité à plusieurs pays africains d'exporter vers les États-Unis sans droit de douane, est ainsi remis en cause. À cela s'ajoute le nouveau rapport de force entre les pays de l'Afrique de l'Ouest et la France. Et pour explorer cet univers économique pour une Afrique en mutation, nous aurons comme guide du jour M. Modibo Makalou, économiste malien. Par ailleurs, il a été membre du groupe de travail sur l'efficacité de l'aide du comité d'assistance au développement de l'Organisation pour la coopération et le développement économique OCDE, basé à Paris. Bonjour et merci de nous servir de guide aujourd'hui.
Bonjour Monsieur Toukara.
Alors, par rapport à cette actualité, Monsieur Makalou, aujourd'hui, comme vous le savez, l'Afrique se redessine. Les États-Unis, aujourd'hui, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, remet aujourd'hui en cause certaines stabilités ou acquis économiques. Alors, quelle serait l'approche économique, d'ailleurs, de Donald Trump envers l'Afrique, notamment en ce qui concerne l'African Growth and Opportunity Act et les accords commerciaux bilatéraux?
Merci bien, Monsieur Toukara. Comme vous le savez, le président Donald Trump a été élu sur la base d'un projet de société, Make America Great Again, MAGA. Et il s'agit de revoir, de mettre en priorité, c'est-à-dire les intérêts des États-Unis dans le monde. Donc, l'Afrique fait partie de cette stratégie. Et comme vous le savez, des instructions ont été données au département d'État, qui fait office de ministère des Affaires étrangères des États-Unis, de revoir tous les traités et conventions signés par les États-Unis pendant une période de 90 jours, y compris les organisations financières internationales, pour voir si ces traités et conventions, et même de même que ces organisations, cadrent avec l'intérêt stratégique des États-Unis. Donc, le résultat de cet exercice n'est pas encore disponible, n'est pas terminé. Donc, je pense que c'est à travers cela que nous saurons un peu plus l'orientation de l'actuelle administration américaine Donald Trump. Mais par rapport à la voie spécifiquement, vous savez que cet accord avait quand même été initié il y a quelques années et malheureusement, évidemment, les échanges ne sont pas très, très fructueux. Cependant, il faudra noter que dans l'AGOA, ce sont les pays pétroliers, ce sont les échanges, surtout concernant l'or noir, qui sont prédominants. Donc, cela intéresse au plus haut point les États-Unis qui, évidemment, étant le premier producteur mondial de pétrole, ils ne sont pas autosuffisants et continuent à importer de pétrole de l'extérieur.
Le pétrole de l'extérieur, aujourd'hui également, comme annoncé, le protectionnisme américain sous Trump pourrait-il réduire les investissements américains en Afrique, notamment dans les secteurs stratégiques comme les infrastructures, les ressources naturelles et la technologie?
Écoutez, ça revient toujours à ce que j'ai dit au départ, que ça va dépendre de la revue qui va paraître sous l'égide du département d'État. Mais aussi, vous savez que les États-Unis se sont engagés récemment dans de vastes projets d'infrastructure en Afrique australe. Mais aussi, vous savez que les États-Unis sont très intéressés par les minéraux critiques, de même que les terres rares. Et vous savez aussi que l'Afrique regorge de beaucoup de ressources minérales inexploitées en ce moment qui pourraient intéresser les États-Unis. Je pense que pour le moment, le focus de l'administration américaine, ce n'est pas sur les États-Unis qu'il ne connaît, sur l'Afrique qu'il ne connaît pas du tout, que cette administration ne connaît pas du tout. Mais je pense que éventuellement, parce que l'Afrique est un terrain presque inexploité avec d'immenses ressources humaines, mais aussi minérales, qui sont au centre des convoitises dans le monde actuel. Et je pense qu'à un moment donné, lors de ces 4 années à venir, cette administration se tournera certainement vers l'Afrique qui est vraiment un terrain d'opportunité.
Et comment une politique étrangère plus axée sur l'America First peut-elle affecter les financements et les aides américaines aux entreprises et aussi aux gouvernements africains ?
Ben, vous savez, d'abord, il faudra placer les choses dans leur contexte. Évidemment, les États-Unis font face à un large déficit budgétaire, 1 800 milliards de dollars, donc pour l'année fiscale 2024, et en même temps des déficits commerciaux vraiment très importants vis-à-vis de ces trois premiers partenaires commerciaux que sont le Mexique, la Chine et puis le Canada. Donc, il s'agit de rééquilibrer les finances, d'aller vers un plus grand équilibre budgétaire aux États-Unis. Donc, ça veut dire réduire les dépenses, mais aussi augmenter les recettes et en même temps augmenter aussi le commerce et les investissements. Donc, tout cela va quand même dans le sens de protéger les intérêts des États-Unis, de voir où les États-Unis peuvent avoir des gains, surtout des gains financiers. Et je pense que c'est cela la stratégie. Et évidemment, l'Afrique n'est pas tellement importante dans le commerce international actuellement, parce que vous savez que nous faisons à peine 3% du commerce mondial. Mais je pense qu'il y a quand même, comme je l'ai dit, beaucoup d'opportunités et beaucoup d'actions au niveau des investissements qui peuvent être entreprises, parce qu'il y avait quand même des initiatives qui avaient été prises par les précédentes administrations Obama et Biden vis-à-vis de l'Afrique dans le domaine des investissements qui ont été bien identifiés. Mais je pense que c'est surtout le secteur privé américain qui pourrait prendre le relais, notamment les compagnies pétrolières et les compagnies minières.
Et aujourd'hui également, avec la remise en question du rôle de la France en Afrique, marquée par le déclin du franc CFA, entre autres, la montée des nouveaux partenaires comme la Russie, la Turquie et la Chine, comment les États-Unis pourraient-ils tirer parti de ce changement ?
Mais vous savez, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est quand même... Nous avons un grand chamboulement qui est en cours. Et vous savez très bien aussi que, évidemment, l'ordre mondial qui avait été constitué après la Seconde Guerre mondiale était en grande difficulté, en agonie, je dirais même. Et que maintenant, je pense que le coup de grâce sera porté par l'administration Trump. Et il s'agit notamment des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods. Et vous savez que dans l'agenda conservateur, la Banque mondiale est dans le collimateur, de même que les Nations Unies, de cette administration de Trump. Donc maintenant, comment tout cela va se répercuter sur l'Afrique ? Moi, je ne saurais le dire, mais je pense quand même que, évidemment, les financements américains vers l'Afrique et le reste du monde vont se réduire. Et l'Afrique et le multilatéralisme, comme je l'ai dit, va diminuer et va pratiquement disparaître parce que les États-Unis vont se concentrer en tant que puissance mondiale. Je crains un nouveau impérialisme parce que les relations internationales sont basées sur les rapports de force. Et actuellement, les États-Unis sont quand même la première puissance militaire, politique, économique, culturelle et commerciale. Donc, il s'agit de voir un peu maintenant comment ils vont se comporter dans le reste du monde. Je pense que pour le moment, c'est l'Asie qui est vue en chien de faïence, surtout la Chine. Mais je pense qu'il y aura des accords bilatéraux qui vont être signés avec différents pays. Malheureusement, l'Afrique qui... L'Union africaine comporte 54 États. Bon, vous savez, si on n'arrive pas à parler d'une seule voix, ces voix seront émiettées. Et si nous sommes dans des négociations bilatérales avec les Américains, ça ne va pas transcrire à grand.
Et justement, les États africains pourraient-ils exploiter la rivalité géopolitique entre les grandes puissances pour négocier de meilleures conditions économiques et commerciales ?
À condition que les Africains soient unis. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est ce que Kwame Nkrumah et Modibo Keïta ont toujours dit avec Sékou Touré que l'Afrique doit s'unir. Et c'était ça l'origine du panafricanisme et de l'organisation de l'unité africaine et maintenant de la commission de l'Union africaine. Parce que vous savez, nous avons cette nouvelle zone de libre-échange continentale qui est la plus large zone de libre-échange continentale au monde qui est opérationnelle depuis le 1er janvier 2021 qui comporte 54 États et 1,5 milliard de consommateurs potentiels et avec une population très jeune, l'âge médian étant de 19 ans en Afrique, nous avons la population, le continent le plus jeune au monde. Donc l'idée, c'est de voir comment les Africains vont se positionner stratégiquement. Comment est-ce qu'ils vont négocier? Parce que vous savez, l'Union africaine a quand même 5 communautés économiques régionales géographiques qui servent aussi de tremplin pour les négociations commerciales. Vous avez vu avec l'Union européenne, c'était le cas. Maintenant, est-ce que les pays africains vont aller grouper en communautés économiques régionales ou est-ce qu'ils vont aller en pays par pays? Et bon, vous verrez que le résultat ne sera pas du tout le même.
Le résultat ne sera plus le même également. Et aujourd'hui même, dans cette même dynamique, quel rôle les nouvelles alliances africaines comme le BRICS, l'OPEP également, l'Union africaine au G20 pourraient-elles jouer dans la redéfinition du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis sous Trump?
Oui, il s'agit d'avoir une voix. Il s'agit d'avoir une voix, je l'ai dit, je le répète, les relations internationales sont basées sur les rapports de force. Et malheureusement, les Africains, nous avons la taille démographique, nous sommes aussi nombreux que les Chinois et les Indiens, mais la Chine est la deuxième puissance économique mondiale et l'Inde la quatrième puissance économique mondiale. Donc vous voyez, ça complique énormément les choses pour les Africains. Et donc il faut quand même se positionner sur le plan stratégique et essayer de voir avec ces différents regroupements. Parce que, je vous ai dit, c'est la fin de l'ordre mondial qui a été établi tout juste après la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Donc maintenant, ce nouvel ordre mondial, il faut que les Africains se positionnent, parce que, évidemment, nous avons la démographie qui marche pour nous, mais aussi nous avons l'économie et les investissements qui peuvent marcher pour nous. Je vous ai parlé des minerais critiques, je vous ai parlé des terres rares, mais vous savez que cette transition écologique et énergétique, elle ne pourra pas se faire sans l'Afrique, parce que nous disposons au moins de 30 à 40% de ces différentes ressources critiques. Mais l'utilisation que nous allons faire de ces ressources, si nous continuons à laisser, à toujours avoir une économie de traite, c'est-à-dire à exporter des matières premières non transformées et à importer des produits manufacturés, évidemment, la révolution numérique que nous traversons aujourd'hui, nous serons des spectateurs au lieu d'être des acteurs. Et vous voyez un pays comme le Mali aujourd'hui qui va être premier producteur africain de lithium en 2025, avec le Zimbabwe comme deuxième producteur. Mais vous avez 5 pays en Afrique qui ont des ressources substantielles en lithium. Mais quelle est la vision africaine? Quelle stratégie ces pays vont adopter par rapport à l'utilisation du lithium, non seulement pour les véhicules électriques, mais aussi pour l'énergie? Parce que encore, vous avez 40% des Africains qui n'ont pas accès à de l'énergie. Alors que nous avons toutes ces ressources, nous avons le soleil, nous avons l'eau, mais nous n'avons pas accès à l'énergie. Et ça, c'est un facteur déterminant pour le produit intérieur brut et la transformation structurelle. Donc, c'est aux Africains de se positionner, de réfléchir avant d'agir.
De réfléchir avant d'agir. Et pour en savoir plus, nous allons écouter cet élément avant de revenir, bien évidemment, avec notre invité, M. Modibo Maka.
Si pendant des décennies, le continent a été sous l'influence des anciennes puissances coloniales comme la France ainsi que des institutions financières dominées par les États-Unis, la donne change progressivement. Aujourd'hui, les États africains diversifient leurs partenaires économiques, cherchant à s'affranchir des dépendances historiques et à redéfinir leur alliance stratégique. Ce basculement vers une diversification des alliances marque une volonté de souveraineté économique. L'Afrique ne veut plus être un simple marché ou un réservoir de matières premières pour les grandes puissances, mais un acteur de son propre développement. L'essor de la zone de libre-échange continentale africaine est d'ailleurs un signal fort en ce sens. Entre Washington, Paris et les nouvelles puissances émergentes, l'Afrique redéfinit ainsi progressivement ses alliances économiques. Ce mouvement, bien que complexe et parfois chaotique, traduit une aspiration à une plus grande autonomie et à une meilleure prise en main de son destin économique. Le défi pour les dirigeants africains sera de s'assurer que cette diversification profite aux populations et ne reproduise pas les erreurs du passé. Ce réalignement stratégique ne signifie donc pas un rejet total des alliances traditionnelles, mais plutôt un pluralisme intelligent des partenaires. D'où l'enjeu pour le continent de tirer profit de cette recomposition pour renforcer son développement économique tout en évitant de nouvelles formes de dépendance.
De retour avec bien évidemment notre invité pour toujours parler d'aujourd'hui, des perspectives économiques de l'Afrique face aujourd'hui à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, mais également cette nouvelle reconfiguration économique et politique entre les pays de l'Afrique de l'Ouest et aussi la France. Nous en parlions tout de suite, mais il y a également, M. Marcado, une question qui interpelle, c'est les restrictions migratoires plus strictes sous Donald Trump et pourraient-elles affecter donc les transferts de fonds des diasporas africaines, bien sûr, vers leur pays d'origine et impacter les économies locales?
Oui, mais pas seulement pour les États-Unis, mais surtout pour l'Europe, parce que vous savez, avec les tensions géopolitiques et puis les difficultés économiques que traversent les pays industrialisés eux-mêmes, vous savez que les transferts de fonds, qu'on appelle aussi les transferts unilatéraux, sont quand même des ressources importantes pour les pays africains, pour certains pays africains, la plupart des pays africains. Si vous prenez les pays du Sahel essentiellement, un pays comme le Mali, les transferts de fonds unilatéraux, les transferts de la diaspora sont plus importants que l'aide publique au développement et sont plus importants que les investissements directs étrangers. Malheureusement, ces fonds ne sont pas utilisés à des fins productives, c'est uniquement pour la consommation. Donc, il faut encore des stratégies par rapport à comment nous pouvons capter ces fonds. Mais avec les difficultés que je vois surgir dans le monde industrialisé, dans le monde entier d'ailleurs, à cause des tensions géopolitiques, mais aussi des difficultés économiques que traversent la plupart des pays, évidemment, ces fonds risquent d'être réduits. Et comme vous l'avez expliqué, avec les tensions migratoires, et évidemment, vous voyez l'émergence des partis d'extrême droite dans la plupart des pays industrialisés, et évidemment, les difficultés économiques, les boucs émissaires sont toujours les étrangers, alors que, évidemment, les étrangers constituent quand même la main-d'œuvre vraiment bon marché dans la plupart de ces pays. Et je vois encore que cela va s'exacerber. On va réduire les déplacements, on va réduire quand même l'accès des migrants à des pays industrialisés. Et ces fonds aussi risquent de se tarir un peu. Donc, il faut quand même des stratégies. Les Africains doivent compter sur eux-mêmes. Et on doit se repositionner stratégiquement, se mettre ensemble. Et d'ailleurs, avec cette zone de libre-échange continentale, on s'est rendu compte que quand les Africains commercent entre eux, c'est là qu'ils ont tendance à échanger entre eux des produits transformés, des produits qui avec des plus grandes valeurs ajoutées. Et c'est cela qui crée de l'emploi, c'est cela qui crée des revenus additionnels pour les Africains.
Donc, les multinationales américaines opérant en Afrique risquent-elles aussi de revoir leur stratégie d'investissement si le président Trump adopte une politique isolationniste?
Absolument. D'ailleurs, vous avez vu que tous les grands patrons qui étaient présents à l'inauguration de Trump, même s'ils n'adhéraient pas à la politique de Trump, on a vu quand même que ça a réjailli sur la politique de ces différentes plus grandes entreprises américaines. Et d'ailleurs, Apple a déjà dit qu'elle allait continuer, elle allait accentuer la production aux États-Unis. Là, au détriment de la Chine, comme vous savez, c'est là-bas que la plupart des produits Apple sont fabriqués. Donc, en fait, Make America Great Again, il s'agit de réindustrialiser les États-Unis, tout ce qui a été délocalisé, de le ramener aux États-Unis. À mon avis, ça va être compliqué parce que non seulement la main-d'œuvre est moins chère peut-être à l'extérieur, la main-d'œuvre est aussi qualifiée et moins chère à l'extérieur. Donc, il faudra prendre en compte les coûts. Est-ce que les citoyens américains, le consommateur américain sera prêt à payer le surcoût pour produire aux États-Unis? Parce que ça, je pense que c'est bien d'avoir les dessous économiques, tout ce qui sous-tend la logique économique. Et évidemment, cela va avoir un effet sur le commerce mondial, mais en créant ces difficultés au niveau du commerce mondial, ces barrières au niveau du commerce mondial, évidemment, cela va avoir des répercussions sur l'économie mondiale et accentuer les difficultés qui vont réduire les dépenses des pays, mais aussi des compagnies, parce que, évidemment, quand les consommateurs n'ont pas les moyens d'acheter les produits, évidemment, ça met aussi en difficulté les sociétés. sociétés, les entreprises.
Ça met en difficulté les sociétés, les entreprises. Et aujourd'hui encore, l'Afrique peut-elle se repositionner face à cette situation comme un acteur clé dans l'économie mondiale, face aussi à un leadership américain plus protectionniste et un déclin relatif de l'influence française?
Oui, c'est une opportunité pour l'Afrique et nous devrions la saisir parce que, évidemment, comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, je pense que c'est la décolonisation économique. Et maintenant, il faut que les Africains s'unissent, que les Africains aient une vision pour se positionner par rapport à cette transition énergétique, mais aussi comment intégrer les chaînes de valeur mondiales. Mais d'abord, il faut travailler sur ce marché intérieur que constitue la zone de libre-échange continentale. Il faut quand même redynamiser les échanges commerciaux au niveau de l'Afrique. Et ensuite, revoir le paradigme des échanges avec les autres pays, quels qu'ils soient. Notre premier partenaire commercial, c'est la Chine. Notre deuxième partenaire commercial, c'est l'Union européenne. Mais comme je l'ai dit, il faut que nous quittions l'économie de traite. Il faut que nous allions vers une plus grande transformation structurelle et que nous ajoutons de la valeur à nos matières premières. Et aussi, surtout que nous accentuions les compétences, la technologie, la recherche, la technologie, pour quand même avoir une main-d'œuvre bien qualifiée. Et c'est cela qui nous permettra de rentrer de plein pied dans la quatrième révolution industrielle, qui est la révolution numérique. Et avec toutes les ressources, la jeunesse que nous avons et les ressources minérales dont nous disposons, je pense que nous pourrons nous projeter dans l'avenir aussi très bien.
Et tout cela, bien évidemment, dans l'optique de valoriser ces destinations africaines, tant sur le plan politique, social, touristique, mais surtout également économique, pour une stabilité vers des lendemains meilleurs. Merci encore à vous, Monsieur Modibo Makalou. Je rappelle donc que vous êtes économiste. Par ailleurs également, vous avez été membre du groupe de travail sur l'efficacité de l'aide du comité d'assistance au développement de l'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE, basée à Paris. Merci encore à vous.
Merci à vous, Monsieur Tunkara.
Merci également à vous, chers accompagnateurs et fidèles auditeurs de cette émission de l'aventure Destination Afrique. Rendez-vous et prie vers d'autres cieux pour un prochain numéro. Au plaisir.